Et priorité santé avec Sunwa Assurance et souscrivez à l'assurance décès pour mettre vos proches à l'abri de tout besoin financier. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Raphaël Constant.
Bonjour, bienvenue, ravie de vous retrouver dans Priorité Santé. Aujourd'hui, on parle de cette émotion qui nous traverse et souvent nous déborde. Elle peut être explosive ou contenue, la colère. Elle fait partie des quatre émotions de base. Dans la sphère intime ou dans la rue, des embouteillages sur la route, des mots blessants au travail, des crispations à la maison, les occasions de se mettre en colère sont nombreuses. Un obstacle, une injustice ou une situation perçue comme frustrante, et c'est toute une dimension émotionnelle qui s'ouvre et qui déclenche des réactions désordonnée ou agressive. Depuis plus d'un an, la pandémie de Covid-19 a aussi généré son lot de colère entre mesures sanitaires, restrictions des libertés individuelles ou encore vaccination. Mais l'histoire nous rappelle aussi que toutes les colères ne sont pas mortifères. Certaines ont même contribué à de grandes avancées sociales. La colère collective des femmes, par exemple, dans les années 60 pour le droit à la contraception en France. Alors si la colère peut être bénéfique quand elle permet d'exprimer des sentiments refoulés, lorsqu'elle s'avère trop fréquente, trop intense et qu'elle se manifeste sans raison apparente, elle peut alors nuire à notre santé. Pourquoi certaines personnes sont plus colériques que d'autres et comment réagir face à la colère d'un proche? Comment appréhender et mieux gérer sa colère? On va tenter de répondre à ces questions dans le calme avec nos invités. Comment gérer ses émotions? Gros plan aujourd'hui sur la colère. Et pour en parler, en studio avec nous aujourd'hui, Dana Castro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et clinicienne à Paris et auteur de l'ouvrage « Petit silence et petit mensonge, le jardin secret de l'enfant » aux éditions Albin Michel. Nous entendrons tout à l'heure en direct du Sénégal Ismaane Soukaina Diop, docteur en psychologie clinique à l'université Cheikh Diop de Dakar. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique « Nutrition » de Stéphane Besançon, son nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et comme chaque jour, vous avez la parole, si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, notre numéro 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Et pour commencer cette émission, je vous lis quelques témoignages que les auditeurs ont laissés sur notre page Facebook. Irène, en RDC, nous dit « Un membre de ma famille est sans arrêt énervé et pour un rien. Je ne comprends pas pourquoi il est énervé comme ça au quotidien. Par exemple, quand je lui demande où il a mangé, il s'énerve. Quand on se taquine toutes les deux avec ma sœur, il s'énerve. Ma mère me dit que c'est sa façon à lui de réagir, mais je me demande si c'est normal de ressentir de la colère sans cesse et sans raison apparente. » Soufiane, au Niger, lui, nous écrit « Je n'aime pas être en colère. Si je m'énerve, je quitte l'endroit où je suis. » Et Gaëlle, à Kinshasa, nous dit « Ma colère me fait agir hors de ma volonté et de mon état normal. » Voilà, déjà pas mal de thématiques soulevées dans les messages des auditeurs de Priorité Santé. Alors, Dana Castro, expliquez-nous qu'est-ce que la colère ?
Vaste sujet. La colère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est vraiment une émotion universelle. Et une des quatre émotions de base. Ça représente, comme toute émotion, c'est un signal d'alarme qui nous indique à un moment donné, soit que nous sommes en danger parce qu'on est dans une interaction négative, soit parce que la situation nous fait éprouver quelque chose que nous vivons comme une terrible frustration ou comme une très très forte injustice. Lorsqu'elle est positive, puisque si c'est une émotion de base, c'est-à-dire qu'elle sert à quelque chose, comme vous l'avez si justement souligné, mais au niveau individuel, lorsque la colère est positive, elle est vraiment un moteur d'action et elle nous pousse à dépasser parfois nos limites, elle nous pousse à aller vers des objectifs tout à fait positifs. Un exemple tout simple, un professeur me fait une remarque que j'aime pas parce que j'ai pas assez travaillé ou parce que il me dit tu peux plus, mais franchement, j'ai été un peu déçue. Je me mets en colère parce que c'est pas agréable d'entendre des choses comme ceci, mais le moteur d'action, c'est que je peux lui montrer ce dont je suis capable et ce faisant, je me montre à moi-même aussi ce dont je suis capable.
Donc la colère peut être amie comme ennemie.
La colère le plus souvent, c'est un ami, comme je vous ai dit, c'est un signal d'alarme. Donc, on a intérêt à apprendre à la décoder. Que veut-elle nous dire à un moment donné lorsqu'on la ressent, pour ne pas se laisser, comme disait un des auditeurs, contrôler par elle et agir en dehors de notre volonté.
Alors quand on se met en colère, on sent qu'on ne maîtrise plus tout à fait ce qui se passe dans le cerveau, ni même dans le corps, ce que nous disent les auditeurs. On crie, le cœur s'accélère, les mains tremblent, les pupilles se dilatent. En fait, pour bien comprendre, la colère a un vrai circuit neurologique. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes à ce moment-là ?
Effectivement, il y a tout un circuit neurologique qui se met en place, et au fur et à mesure qu'on la vit, par le fait qu'on est soi-même dans un état physiologique qui n'est pas le nôtre habituellement, c'est comme si ça envoyait au cerveau un renforcement en nous disant, voilà, la situation est extrêmement grave, donc mobilise toutes tes défenses, enfin mobilise tout ton corps. Et il y a une forme de auto-entretien de la colère, où plus on se met en colère, plus le cœur bat, plus on essaie de réagir, et donc plus le cœur bat, puisque le cerveau a compris que c'est très très grave. Plus le cœur bat et plus on est désorganisé dans l'action, avec finalement un objectif qui ne sera jamais atteint de cette façon, c'est que la situation cesse.
Est-ce qu'on peut identifier, vous avez commencé à en citer, mais des causes principales à une crise de colère ?
Je dirais qu'il y a deux causes principales, c'est la notion de frustration. Alors la frustration, c'est un domaine très vaste. Je peux me sentir injustement, et frustration liée à un sentiment d'injustice. Par exemple, dans la relation interpersonnelle, je peux me sentir critiquée par un conjoint. Indépendamment de ce qu'il fait, c'est mon ressenti. Et donc ça me met en colère parce que c'est frustrant, je fais beaucoup d'efforts et injuste. Ça peut être des oppositions, ça peut être tout simplement la frustration qui vient par quelqu'un qui s'oppose à moi et qui ne n'obtempère pas à ce que je lui demande de faire, donc une forme de résistance de la part de l'environnement. Parfois, la colère, ça peut être aussi une façon de manipuler l'autre, c'est-à-dire à lui faire peur, en se mettant dans des états pas possibles, surtout pour des choses minimes. Eh bien, on va induire une forme de soumission par la peur du conflit qui risque de se... J'ai perdu mon fil. Peur du conflit qui risque d'arriver.
Est-ce que, pour coller à l'actualité d'Anna Castro, la période de crise sanitaire qu'on traverse à l'échelle mondiale, avec tout ce qu'elle implique, les confinements, le télétravail, les restrictions des libertés individuelles, est-ce que ce sont des facteurs de colère ? Vous, dans vos consultations, qu'est-ce que vous constatez ?
Oui, bien sûr, ça peut être c'est-à-dire tout ce qui est perçu comme injuste, je dis bien perçu comme injuste, et tout ce qui est frustrant, ça peut susciter de la colère. Et comme on l'a vu d'ailleurs, puisque vous parlez de la crise sanitaire, la colère peut pousser aussi à la transgression. Ceux qui ont en psychologie, on a constaté que, par exemple, dans la crise sanitaire, les personnes qui ont le plus mal vécu, enfin, je dis vraiment d'une manière très très générale, la restriction des libertés, sont des gens qui, par caractère, sont extrêmement ouverts, qui ont besoin des contacts sociaux, qui ont besoin vraiment de l'ouverture vers la ville, etc. Ça fait partie de leur caractère. Donc, en bloquant finalement cet échappatoire, la situation a pu susciter de la colère. Maintenant, les personnes qui ont souffert parlent, dans mon expérience, pas tellement de la colère, mais d'une forme d'apathie. Ce qui vraiment secondairement peut susciter de la colère, mais comment ça se fait que je suis si apathique alors qu'avant j'étais beaucoup plus dynamique, etc. Mais c'est comme s'ils étaient dans une période, vous savez, dans un sas entre quelque chose auquel ils s'étaient habitués et quelque chose de nouveau qu'ils ne savent pas encore ce que ça va donner.
Vous restez avec nous, évidemment, la grande question de cette émission, comment gérer la colère ? Tout de suite, on va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et on accueille une première auditrice, c'est Kali à Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonjour Kali.
Bonjour madame.
Comment vous allez ?
Oh, je suis un peu gênée, mais ça va.
Non, vous inquiétez pas, on est à la radio, on vous voit pas. On vous écoute par contre.
Bon, moi, j'ai une colère explosive. C'est-à-dire que quand je suis en colère, je n'arrive pas à me maîtriser. Je peux passer du rire à la colère, sans transition. Tout peut me mettre en colère, en fait. Donc, avec mon époux, c'est assez difficile à gérer. Parce qu'il fait beaucoup d'efforts pour supporter. Parfois, il m'aide à pouvoir gérer ma colère, mais ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc je vais avoir la méthode.
Et Kali, est-ce que vous, vous avez toujours été colérique, impulsive ?
Bon, à vrai dire, depuis mon enfance, je suis impulsive. Mais je sens qu'avec la vie de couple, ça a décuplé. Voilà.
C'est-à-dire, donc, ça a décuplé, c'est-à-dire que la vie à deux, la vie avec votre mari a décuplé.
Oui. La vie à deux, et puis dans le milieu professionnel également, je remarque que je suis toujours en colère, en fait, surtout dans mon couple.
Et au travail, toujours ça se manifeste comment ?
Bon, au travail, je ne supporte pas les injustices de nature et j'ai une responsable qui a, donc je ne vais pas la juger, mais qui nous met parfois mal à l'aise. Elle a tendance à rabrouer, à humilier et quand c'est comme ça, je me braque.
Humilier, ça veut dire qu'elle s'en prend à vous en fait, c'est ça ? Des situations où elle vous humilie.
Oui, parfois elle ne prend pas ses responsabilités, elle nous rejette la responsabilité. Et là, bon, le chef nous tape là-dessus alors que c'est pas toujours de notre faute en fait.
Et ça vous a causé des problèmes, ces colères au travail ?
Oui, ça, je crois plusieurs fois, mais maintenant je fais beaucoup d'efforts pour me contenir. Voilà.
Merci Kali, je me tourne vers vous, Dana Castro.
Déjà, bonjour Kali. Déjà, en nous racontant cette histoire, vous avez cité deux éléments qui peuvent vous aider à gérer votre colère, qui sont possibles. Déjà, vous avez dit que vous faites beaucoup d'efforts, peut-être, parce que lorsque vous allez au travail pour voir cette responsable, déjà, parce que vous savez que vous pouvez vous braquer, c'est comme si vous vous prépariez à l'avance de l'affronter, ce qui me paraît vraiment une des meilleures façons de gérer la colère comme ça au quotidien. Le deuxième élément important que vous donnez, c'est que parfois, certaines personnes peuvent vous aider à vous apaiser, en l'occurrence votre conjoint. Pas toujours, mais ça veut dire que avec lui, si vous êtes dans une bonne relation, un petit signe ou quelque chose peut vous rappeler que vous êtes en colère et qu'il est important de vous extraire de la situation d'abord pour vous apaiser. Vous décrivez aussi deux éléments à nouveau qui vous font vous mettre en colère, ce que vous appelez l'impulsivité, peut-être que vous êtes une personne très émotionnelle et le sachant, encore une fois, je reviens à ce que je vous disais auparavant, il est important de vous dire parce que je suis émotionnelle, je vais prendre sur moi un peu, pas beaucoup, et je vais me canaliser. Donc, c'est le caractère un peu. La deuxième chose, c'est que vous n'aimez pas du tout, d'ailleurs qui aime, mais vous n'aimez pas du tout la contrainte et l'injustice. Et c'est vrai que parfois, dans le milieu du travail, on n'a pas de prise là-dessus. On ne peut pas dire à une responsable, t'es comme ci et comme ça, et quand bien même on lui dirait, ça pourrait se retourner contre nous et ça n'en changerait pas. En revanche, on a prise sur soi pour se canaliser. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est de se préparer à l'avance. C'est comme si on se dit à soi-même, je sais que je suis colérique, dans telle situation, je ne vais pas m'énerver. Et si je sens que ça monte, je sors, je vais me mettre de l'eau sur la figure.
Trouver des moyens de se canaliser,
absolument,
de travailler sur soi. Merci beaucoup, Kali, pour votre appel et on vous souhaite une belle journée à Abidjan. Tout de suite, un autre appel, c'est Sani, qui, lui, nous appelle de Cotonou, au Bénin. Bonjour, Sani.
Oui, bonjour, Madame Raphaël.
On vous écoute.
D'accord. Par rapport au thème du jour, il y a de cela 5 ans, depuis 5 ans que je suis victime de ce phénomène de colère. Et le mien a démarré depuis certains événements de famille. C'est comme ça, sinon, en temps, j'étais de nature calme. Mais il y a beaucoup d'événements de famille qui sont venus bouleverser beaucoup de choses. Je suis devenu très coléreux, je ne me contrôle plus. Au boulot, il y a aussi du stress. En circulation, je suis dans une grande ville où on tombe dans des bouchons, ça me tape sur les nerfs. Puis, c'est comme ça déborde. Et déjà, je commence pas à sentir des trucs en moi, parce que je suis tellement fatigué, j'ai des douleurs articulaires, j'ai mal à la poitrine. À des moments donnés aussi, je me mettais sous le café, mais j'ai fini par comprendre que ce n'était pas aussi bien, j'ai dû arrêter le café. Alors voilà un peu
Sani,
ce dont j'ai.
on entend une forte émotion dans votre voix. Je crois que vous avez indiqué au standard quand vous nous avez appelé que vous avez fait une dépression. Et c'est aussi après cette dépression que la colère est arrivée, c'est ça?
Oui, effectivement, j'ai fait une dépression. C'est suite à cette dépression que la colère est arrivée. Et j'arrive pas à contrôler cette colère. J'ai procédé par beaucoup de choses.
Il y a eu de la
J'ai
tristesse
été
et de la colère, c'est
réorienté
ça?
vers un psychologue. Ça ne va pas.
Ça ne va pas. Merci beaucoup, Sani, pour votre appel d'Anna Castro. Je vous laisse répondre à notre
Oui,
auditeur
tout à
ému.
fait. Beaucoup d'émotions parce que vous avez l'impression que votre personnalité a changé. En fait, je pense pas qu'elle ait fondamentalement changé. Je crois que cette colère que vous vivez en ce moment et contre laquelle vous luttez en essayant de boire du café, etc. Je vais revenir là-dessus. Je pense que c'est encore le signe, donc, de ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire que les problèmes ne sont pas complètement résolus et que peut-être il y a encore quelques éléments de dépression dans votre situation actuelle. Vous décrivez de la tristesse, vous décrivez beaucoup d'irritation. Donc, c'est peut-être effectivement pas vous, mais c'est encore une fois le signe que les problématiques que vous avez eues il y a 5 ans perdurent encore et qui provoquent le même état désagréable en vous. Vous ressentez aussi beaucoup d'injustice et j'imagine que vous avez aussi beaucoup de culpabilité puisque vous dites que c'est quelque chose qui vous rend triste. En même temps, c'est comme ça. La culpabilité, je pense qu'elle n'est pas justifiée dans ce que vous nous avez raconté. Vous essayez de lutter contre cette colère par exemple, en buvant du café, etc. Le café, c'est toujours agréable et bon si on l'aime, mais c'est pas vraiment, vous savez, c'est comme un peu le chocolat, ça fait du bien. C'est pas sûr que ça soit un bon médicament contre
Parce que c'est aussi un excitant.
parce que c'est aussi un excitant. Et puis, ce qui peut apaiser, c'est de dire stop dans son tête. Si on reste à ruminer en permanence en sirotant le café, il s'est passé ça, et j'ai fait ci, et il s'est passé ça, et tout, et tout. Et ça tourne en boucle. Vous savez, le cerveau envoie un signal aux émotions en disant que c'est grave, que c'est normal, que ça soit grave, etc. Et on ne peut pas jamais lâcher prise. Donc, finalement, la grande lutte contre le ressenti, c'est de se dire il faut lâcher prise, non pas avec des substances psychostimulantes, mais peut-être en faisant autre chose,
Aller vers du calme, en fait, des
aller vers du
activités plus
calme,
calmes.
absolument aller vers du calme, respirer, regarder un film, comédie romantique par exemple, à la
Et
télévision,
prendre l'air aussi, peut-être, parce que Samy nous
absolument.
parle des embouteillages, des bouchons qui peuvent être facteurs d'énervement, en fait.
Et puis se dire, je ne peux pas changer la situation, donc c'est mon émotion que je vais changer.
Merci beaucoup, Sani, pour votre appel. On vous souhaite plein de courage, une belle journée, du soleil et du sourire. Tout de suite, une pause en musique. On se retrouve juste après Santé de Stromae sur RFI.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa. Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert,
quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Nous parlons aujourd'hui de nos émotions et particulièrement de la colère avec vous, Dana Castro, psychologue clinicienne à Paris. On reprend les questions des auditeurs qui sont curieux et qui ont plein de questions pour vous avec Bienvenue qui nous appelle du Cameroun. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour à RFI et bonjour à l'équipe des Priorité Santé.
On vous écoute.
D'accord. Moi, c'est Bienvenue. Yesma est étudiant chargé à l'université de Ngaoundéré, en master 1, géographie. Ma question est la suivante. J'ai du mal à contrôler ma colère, surtout quand je veux parler particulièrement de ma petite amie. Disons que ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Il y a quand même une petite distance qui nous sépare parce qu'elle, elle étudie à Marwa. Et mon souci est que souvent quand elle fait des choses que je mets en colère, cette colère, ça dure au moins pour moi 2 à 3 semaines. Et le problème est que ma colère est que quand je suis en colère, j'écris pas sur les gens, bien sûr. Mais plutôt, je garde ça au fond de moi à tel point que c'est difficile d'évacuer, quoi. Je voudrais savoir s'il y a des choses à faire quand je suis en colère. Peut-être que ça va me permettre de pouvoir revoir ou peut-être essayer de pardonner rapidement à cette personne.
Et ça veut dire, bienvenue, si vous gardez cette colère à l'intérieur, comme vous dites, qu'est-ce que ça provoque chez vous physiologiquement? Est-ce que vous avez mal?
Oui, très mal.
Où ça?
On va dire moralement.
Moralement. Donc vous êtes à distance, vous avez des colères d'amour, on peut dire. Dana Castro, une colère qui dure 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, qui étouffe et qui finit par faire mal. Là, on est vraiment avec quelqu'un de colérique.
On est absolument avec quelqu'un qui souffre profondément et qui ne sait pas quoi faire avec sa colère. Vous avez décrit beaucoup d'inquiétudes par rapport à la relation que vous avez avec votre petite amie. Le problème, c'est que lorsqu'on tient comme ça sa colère en soi, sans se rendre compte d'une manière absolument inconsciente, on l'augmente parce qu'on ressasse en permanence et on se dit, regarde ce qu'elle m'a dit et qu'est-ce que je lui ai dit et je ne sais pas ce qu'elle fait, peut-être qu'elle fait ça. Et en fait, on se met dans une situation où on imagine peut-être des choses qui, en tout cas, qui sont agrandies par le fait qu'on ressasse. Et le sentiment qui va avec reste de plus en plus puissant. Une colère qui est rentrée, effectivement, provoque beaucoup, beaucoup de mal. Donc la meilleure façon de la faire, vous savez, il y a un proverbe qui dit que la meilleure façon d'affronter sa peur, c'est de la... Enfin, la meilleure façon de vaincre sa peur, c'est de l'affronter. Je dirais que la meilleure façon de vaincre sa colère, c'est de respirer un grand coup et d'expliquer à l'autre... vraiment ce qui vous pose problème, le plus calmement possible, parfois même par écrit, juste pour justement se distancier, sans rentrer dans les polémiques et procéder par étapes. Comme si d'abord, par exemple, je dis calmement ou j'écris un mail en disant « voilà ce qui me met en colère parce que j'ai l'impression que je ne suis pas suffisamment considérée ou reconnue dans ce que je fais ». Et s'il y a débat, le fractionner justement pour revenir régulièrement à discuter d'un sujet, parce que le sujet de la relation, c'est un sujet, je dirais, de toute une vie, pour pouvoir le traiter pas à pas.
Étape par étape, le déconstruire pour,
oui,
pour
le mieux déconstruire le étape par étape pour mieux le comprendre.
Merci, bienvenue pour votre appel. On passe le micro de Priorité Santé à Michel, qui est à Brazzaville, au Congo. Bonjour Michel.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, madame Raphaël. Bonjour. Moi, je travaille dans une société sur la place ici. Mais souvent, le matin, quand je viens au boulot, il y a mes amis du travail qui se fâchent contre moi. Vu que je suis le gestionnaire des stocks, mais lorsqu'il y a manquement des matériaux, il se fâche contre moi. Des fois, il y a des insultes, des menaces, un peu du tout. Du coup, ça me rend en colère. Ça me rend en colère avec eux. Je peux passer toute une journée au travail sans adresser la parole à une personne. Mais dès que j'arrive à la maison, c'est différent. À la maison, je ne suis pas du genre à être en colère. Mais souvent, quand j'arrive au boulot, dès que je les vois, du coup, je me sens énervé, je me mets en colère contre eux parce que c'est eux qui me causent souvent ça. Je ne comprends pas parce que je n'arrive pas à maîtriser ma colère là.
Michel, j'ai l'impression que vous êtes dans un cadre un peu violent tous les jours au travail. Qu'est-ce que ça fait chez vous? Est-ce que c'est fatigant? Est-ce que ça justement alimente une autre forme de colère chez vous? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous rentrez du travail?
Moi, dès que je rentre du travail, des fois, ça me fait peur. Je me dis, oh, pète, là, il y a X, Y, Y qui viennent encore me gueuler sur moi. Il va se fâcher sur moi. Donc,
Merci pour ce témoignage, Michel, d'Anna Castro. Une très bonne question. Comment réagir face à la colère des autres, qui plus est au travail, quand on rentre, qu'on a peur et qu'on est épuisé? Le témoignage de Michel est assez fort.
Oui, il est assez fort. Merci d'ailleurs pour ce témoignage qui finalement n'est pas le seul. Beaucoup de personnes subissent au travail une colère qui est complètement injustifiée. Ce qui vous met en... Il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que c'est normal de vous sentir en colère lorsque vous subissez des menaces, des cris et une colère qui est complètement injustifiée, parce que si vous n'avez pas les produits, vous ne pouvez pas les inventer, vous ne pouvez pas, je ne sais pas, d'où vous pourriez les sortir si vous ne les avez pas reçus. La deuxième chose que vous décrivez est donc... ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le sentiment très fort d'injustice. Vous vous sentez même menacé par ces gens qui hurlent. Donc la colère, ça dégage une forme d'agressivité. Et dans ce cas, ça permet un peu peut-être de stopper les autres. Vous essayez de les stopper les autres dans leur colère pour qu'ils se retirent et qu'ils vous laissent tranquille. Lorsque vous dites que vous arrivez au travail et que vous attendez presque que la colère des autres se déverse, c'est que dans votre tête, et on voit l'impact important qu'elle a pu avoir, vous l'anticipez déjà. C'est comme si vous vous disiez, je vais au travail et il va se passer ça et ça et ça. Les gens vont se mettre en colère et donc vous pouvez ressentir de l'anxiété ou vous mettre vous-même dans la colère. Alors, si elle ne vous est pas adressée, c'est-à-dire que dans ce que vous décrivez, cette colère ne vous est pas adressée à vous en tant que personne. C'est juste une expression effectivement inappropriées de gens qui se sentent empêchés, injustement peut-être, empêchés dans leur propre travail, avec tout ce que ça implique comme crainte de leur côté. Donc, vraiment, il faut que vous alliez, ça serait bien que vous alliez au travail en vous disant, s'ils hurlent, je ne les entends pas.
Il faut que ça glisse, en fait, prendre de la distance.
Il faut que ça glisse et vous dire qu'à la maison, vous allez vous sentir bien.
Merci beaucoup, Michel, pour ce témoignage. Là, le prochain auditeur, c'est Laurie Sandry en Haïti qui nous a laissé une note vocale sur le répondeur.
Bonjour, Priorité Santé. Je suis Laurie Sandry, je vis en Haïti. Des années de cela, j'étais irascible. Je me mettais en colère facilement et pour n'importe quoi. Mais c'était depuis la mort de ma mère et de ma grand-mère dans un intervalle de 30 jours environ. Et avec la naissance de ma fille, ma première fille, toute cette colère a été pratiquement dissipée, comme par magie. Et quand je suis avec mes enfants, je suis calme, je me sens bien, serein. Et mon problème est que certaines fois, j'ai du mal à écouter les gens se plaindre autour de moi. Ça m'agace un peu, ça m'irrite un peu. Parfois, je sens le désir de rester à l'écart de tout le monde, de rester seul, de ne pas écouter du bruit. Même la sonnerie de mon téléphone, ça m'agace un peu. Je me demande est-ce que c'est dû aux séquelles de la mort de mes parents. Je suis devenu orphelin après la mort de ma mère. Est-ce que c'est dû à un manque d'affection, de compréhension? Ma femme aime parler, elle aime discuter. Parfois, je prends plaisir à l'écouter parler. Mais certaines fois, elle me parle et j'ai pas envie d'écouter. Et au fond de moi, je me sens irrité. Au fond de moi, je sens que j'ai besoin d'un recul, de silence pour écouter ma voix intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de moi. À la vérité, je ne suis pas violent. Non, pas du tout. Et je fais toujours de la méditation pour essayer de comprendre ce qui m'agace, ce qui m'irrite, ce qui me met hors de moi. Mais souvent, je sens le désir de me mettre à l'écart parce que la colère qui m'anime parfois me dépasse. Et souvent, je me sens un peu apaisé après avoir écouté de la musique. Ou si je passe une journée à écouter de la musique, je me sens plus ou moins apaisé. Merci.
Dana Castro, c'est un témoignage touchant encore. On entend pas mal de bons réflexes de Laurie Sandry, se mettre à l'écart, méditer pour comprendre, écouter de la musique pour se calmer.
Oui, absolument. C'est très touchant. On voit que la vie a pris un autre sens avec la construction de sa propre famille et avec la révision positive du passé, avec tous les moyens qui sont à sa disposition pour faire face. Il va absolument réussir, c'est promis.
Vous êtes sur la bonne voie. Merci à tous, en tout cas, pour vos appels, vos messages, vos témoignages et surtout votre confiance. Vous restez avec nous, Dana Castro, tout de suite. Je vous propose de prendre la direction du Sénégal.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et on retrouve Dr Isman Soukena Diop, docteur en psychologie clinique à l'université Charanta Diop de Dakar. Bonjour.
Bonjour.
Docteur Isman Soukena Diop, est-ce que vous recevez beaucoup de patients en colère et quelles sont les grandes causes de cette colère chez vos patients?
Oui, effectivement, l'une des raisons les plus fréquentes dans ce domaine-là pour consulter, c'est la difficulté à gérer les conflits sur le plan familial, professionnel, dans le couple, par exemple. Et les personnes qui consultent pour ce motif, elles se plaignent effectivement d'une grande colère qu'elles ressentent, car elles ne se sentent pas entendues ou respectées ou légitimées dans leurs demandes ou dans leurs relations avec les autres.
Et est-ce que vous avez le sentiment que les patients viennent chercher des solutions pour gérer la colère lors de vos consultations ou est-ce que c'est plutôt un exutoire? Comment vous les aidez?
Eh bien, c'est un peu de tout ça. La plupart du temps, les personnes veulent être entendues et qu'on leur dise « vous avez raison d'être en colère, ce qu'on vous a fait ou que ce que cette personne vous a dit n'était pas juste ». Il y a beaucoup le sentiment d'injustice, cette colère qui fait qu'on se sent seul et pas entendu et pas compris par les autres. Mmh. Sur le plan familial, par exemple, lorsqu'il y a une situation qui cause de la colère, le lien familial entretient souvent cette idée qu'il faut apaiser les situations, même si tout le monde n'aura pas justice. Il faut trouver des situations qui conviennent à peu près à tout le monde pour trouver de l'apaisement. Et beaucoup de personnes restent frustrées parce qu'elles ne se sentent pas entendues et qu'elles ne sont pas légitimes dans leurs demandes. Et c'est ce qui renforce cette colère.
Donc construire des relations équitables. Docteur Ismaël Soukaina Diop, est-ce que des événements comme des conflits armés, ethniques, religieux peuvent donner lieu à ce sentiment de colère? Est-ce que vous avez, vous, des patients qui viennent vous voir pour ce motif?
Beaucoup de personnes, oui, peuvent venir dans ce contexte particulier parce qu'il y a cette souffrance qu'on ne peut pas exprimer. Bien sûr, encore une fois, le sentiment d'injustice, mais également, surtout, le fait que leur histoire n'a pas été entendue, n'a pas été élucidée, qu'il n'y a pas eu de solution à leurs problèmes et qu'ils sont obligés de vivre avec. Et cette difficulté dont on parle quand on dit de vivre avec, c'est en quelque sorte, c'est facile à dire, mais au quotidien, c'est une lutte de passer à côté de ces émotions, cette pulsion, cette agressivité qu'on ressent en soi-même pour en quelque sorte l'avaler et passer au-delà de ça pour entretenir des rapports cordiaux avec tout le monde autour de soi, même si on se sent encore en conflit à l'intérieur de soi-même.
Donc pour vous, c'est important d'entendre la colère de l'autre et d'accepter la colère, le sentiment en soi, en fait.
Absolument, en fait. On ne peut pas se débarrasser de la colère sans l'entendre, l'accepter, mettre des mots dessus. Quand on banalise ou qu'on rejette sa propre colère ou celle d'autrui, ce n'est pas la solution parce que ça ne fait que renforcer la frustration, le sentiment de culpabilité. Si on dit à une personne que ce n'est pas grave, qu'il faut qu'elle passe à autre chose, en quelque sorte, on la culpabilise. Parce qu'elle pourrait se contenter de ce qu'elle a, elle pourrait être satisfaite de ce qu'elle a plutôt que de se focaliser sur le passé. Or, on a besoin de faire la paix avec le passé pour pouvoir aller vers l'avenir. Donc, on a besoin d'être entendu, d'avoir une légitimation de son sentiment, d'être accepté tel qu'on est, avant de pouvoir passer à autre chose, entre guillemets.
Donc, on ne peut pas vivre en colère, docteur Diop?
Non, on ne peut pas vivre en colère. En tout cas, ce n'est pas viable sur le long terme, parce que la colère, c'est une émotion qui coûte énormément à l'individu. C'est très lourd à porter, la colère. Et ça peut se convertir d'autres manières. Ça peut se convertir par des symptômes somatiques comme des maux de ventre, de l'eczéma, des rougeurs. Ça peut prendre une autre dimension qui finalement pollue la vie de l'individu sur différents plans. Ça peut créer des troubles du sommeil également. On peut s'endormir en colère, avoir du mal à s'endormir, faire des cauchemars, ne pas se sentir reposé. Ça entraîne une foule d'autres réactions dans d'autres domaines qui impactent les autres domaines de la vie professionnelle, la vie de couple, la vie de famille, la relation de parents vis-à-vis de ses enfants. Donc on a besoin de trouver une solution à cette colère.
De l'extérioriser, de l'exprimer en tout cas. Quel conseil vous pouvez donner aux auditeurs, aux auditrices, ou quel message vous avez envie de faire passer?
Lorsque la colère nous envahit, moi je pense qu'il est important de s'isoler, comme l'a dit Landry d'Haïti tout à l'heure dans son témoignage. Il est important de s'isoler, d'utiliser des techniques de respiration, de méditation, comme il l'a dit, pour retrouver son calme. Parce que lorsque les émotions s'enchaînent, on a du mal à voir clairement. On a du mal à penser clairement. Et ou démarrer une conversation lorsqu'on est très en colère n'est pas forcément une bonne chose parce qu'on n'arrive pas tout à fait à délimiter ce qu'on dit, ce qu'on entend de ce que l'autre a réellement dit, de ce qu'on interprète. Et ça peut nous amener à avoir des rapports très conflictuels avec les autres, de plus en plus conflictuels, qui ne vont pas vers une amélioration de la situation. Donc, parce qu'on arrive à retrouver un esprit clair, on peut s'accorder du temps pour comprendre notre propre émotion, remonter à son origine, se l'expliquer à soi-même, pour pouvoir la communiquer.
Donc ni banaliser, ni rejeter la colère, c'est pas donc une solution, ça renforce ce sentiment de frustration. Merci beaucoup docteur Ismaël Soukaina Diop d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie clinique à l'université Charanta Diop de Dakar au Sénégal. Docteur Dana Castro, pardon, je vous pose une dernière question pour conclure bientôt cette émission. On l'a dit, la colère trop fréquente, trop violente peut amener à des maux, à des maladies. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour nos auditeurs pour gérer cette colère et éviter de tomber dans ces états-là?
Je ne suis pas en colère, j'ai juste... oui, absolument. Je crois que c'est vraiment le mot-clé, gérer la colère. Alors, le schéma pourrait être celui-là. Se rendre compte que nous pouvons être en colère facilement, première chose. La deuxième chose, essayer de repérer les situations plus particulièrement qui nous mettent en colère. Grosso modo, il y a 2 ou 3 ou 4 catégories, mais pas plus. Troisièmement, c'est de se préparer à affronter ces situations en se disant, en se donnant une conduite à tenir. Si je sens que ça monte, j'arrête la discussion, je me retire, je respire, je sors dehors, etc. Et si déjà la colère s'installe, il faut vraiment à un moment donné essayer absolument de la stopper, d'arrêter de penser et de ressasser, parce que ce ressassement perpétuel l'entretient malgré nous.
C'est un cercle vicieux, en fait.
C'est un cercle vicieux. Plus je dis, ah, il m'a fait ça, vous vous rendez compte ce qu'il m'a fait, c'est insupportable. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Je ne fais qu'augmenter mon sentiment d'injustice et donc je maintiens sans vouloir la colère. On ne banalise pas, surtout il ne faut pas dire ce n'est pas grave, mais je suis en colère, je lâche prise, je me calme et je vois après ce que je peux faire pour la situation et sortir de la situation.
Désamorcer la
Désamorcer,
situation.
Désamorcer, oui.
On a commencé à évoquer très rapidement avec les auditeurs la question de l'entourage. C'est le premier témoin et parfois victime de la colère d'un proche, mais ça peut être aussi un aidant. Comment aider un proche? Comment désamorcer justement la crise de colère d'un proche?
Je pense que c'est à peu près le même schéma. Si on connaît bien cette personne, on sait à peu près ce qui la met en colère, on sait à peu près quelles sont les situations donc qui vont réactiver une réaction impulsive. On sait également que, en le connaissant, que ça peut venir soit d'un manque de reconnaissance, soit d'un sentiment d'injustice, soit d'une frustration. Donc, si la colère est vraiment explosive, il faut pas essayer de discuter parce que la personne ne comprendra rien et au contraire, comme nous l'avons entendu, ça va s'envenimer. Je pense qu'à ce moment-là, en tant que proche, on s'extrait nous-mêmes de la situation en disant « tu es très en colère, je vois que c'est très débordant pour toi, je te laisse te calmer et on rediscute après ».
Mais c'est pas évident, ça peut faire peur la colère d'un proche et parfois justement ça nourrit aussi ce cercle vicieux de deux personnes qui se bouclent et qui se mettent en colère.
Peut-être c'est la solution la moins pire dans ce cas que de s'extraire, parce que sinon quel serait l'autre? Il faut, comme nous l'avons entendu, quand quelqu'un est en colère, n'est pas dans son état normal, donc il ne va pas entendre des arguments. Vous savez, parfois on jette un seau d'eau pour calmer les gens, donc pour dire dans quel état froide, dans quel état ils peuvent se mettre. Donc si on part de l'idée qu'on ne peut pas discuter avec des gens qui sont en colère, il faut s'extraire pour se protéger soi-même. Parfois, on peut physiquement éventuellement les prendre dans les bras ou les rassurer de cette façon.
Bon, restez calme et ne vous jetez pas de seau d'eau à la figure. Ne cassez pas d'assiette. Merci beaucoup, Dana Castro, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne à Paris et auteur de l'ouvrage Petit silence et petit mensonge, le jardin secret de l'enfant aux éditions Albin Michel. On parle nutrition et santé avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et aujourd'hui, on parle d'une nouvelle preuve scientifique de l'intérêt nutritionnel du mil, du sorgho et du fonio. Au mois de juillet, de nouveaux résultats sont venus renforcer justement les preuves scientifiques de l'intérêt de ces céréales dans notre alimentation. Pouvez-vous nous présenter cette famille de céréales?
Alors, les millets sont des espèces de plantes graminées de la famille des poacées. Alors, cette famille comprend aujourd'hui 13 variétés de céréales recensées à travers le monde. Ce sont des céréales vivrières dont les petits grains sont utilisés dans l'alimentation depuis plus de 10 000 ans. Alors, le plus connu et le plus consommé, c'est le mil, le sorgho, mais aussi le millet père, le millet des oiseaux et pour l'Afrique de l'Ouest, le fonio. Alors, les différentes variétés de mil et de sorgho sont consommées depuis l'Antiquité en Asie, notamment en Chine, en Corée, au Japon, mais aussi en Afrique. Quant au fonio, il représente une variété un peu plus rare qui est principalement cultivée dans 4 pays en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Sénégal. Il représente aussi une variété avec une forme un peu différente. C'est une plante herbacée qui mesure en moyenne 80 cm et qui a la particularité d'avoir un grain minuscule qui mesure à peine 1,5 mm, ce qui fait qu'il faut quasiment 2000 graines de fonio pour obtenir un simple gramme de la céréale.
Alors Stéphane, racontez-nous comment a été réalisée cette étude et surtout quels sont les principaux résultats.
Alors ce travail, c'est pas une étude classique, mais ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire l'analyse de résultats d'un très grand nombre d'études scientifiques qui répondent à des critères bien précis en termes de méthodologie et de publication. Alors cette méta-analyse a été réalisée par des chercheurs issus de 7 organisations de recherche basées dans 4 pays de différents continents. Ces chercheurs ont compilé ainsi 181 travaux de recherche qui ont étudié étudié la consommation de 11 types de millet chez 1000 personnes, qu'elles soient atteintes de diabète ou pas atteintes de diabète, dans 11 pays différents. Donc ce travail représente aujourd'hui la plus grande revue systématique des études internationales sur le sujet. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la conclusion de cette analyse de tous ces travaux de recherche, c'est que la consommation de différents types de millet est associée d'une part à une réduction du risque de développer un diabète de type 2, mais aussi à une meilleure gestion du diabète de type 2 pour les personnes déjà atteintes par la maladie. Et en plus de ça, les chercheurs ont montré que l'amélioration des constantes biologiques était aussi associée à un index glycémique plus bas, c'est-à-dire la capacité de l'élévation du taux de sucre dans le sang après avoir ingéré cette céréale est plus bas que les autres familles de céréales.
Est-ce qu'il y a d'autres avantages ou risques liés à cette consommation de céréales ?
Alors, comme toutes les céréales, ces céréales sont composées majoritairement de glucides complexes, de sucres complexes, c'est-à-dire de l'amidon. Donc, elles présentent donc un intérêt pour apporter l'énergie nécessaire au fonctionnement quotidien de notre corps. Cette famille de céréales présente en plus une teneur qui est intéressante en protéines qui sont composées par des acides aminés assez diversifiés qui viennent compléter les protéines fournies par les légumineuses, les noix, les graines et d'autres aliments. Il est aussi important de noter que les mille, le sorgho ou le fonio ne contiennent pas de gluten et donc sont indiqués pour les personnes intolérantes au gluten et donc atteintes de la maladie cœliaque. Alors il faut cependant faire attention à une petite chose, c'est que en Afrique de l'Ouest, le fonio, on dit souvent que le fonio est un médicament qui peut guérir le diabète ou au moins traiter le diabète. Et il faut être très clair là-dessus, le diabète ne se guérit pas, et même si le fonio est un élément intéressant, ce n'est pas en rien un médicament en fait, ça reste un aliment.
Alors en tenant compte de toutes ces connaissances, quelles sont vos recommandations finalement ?
Alors, le mil, le sorgho, mais aussi en plus petite proportion le fonio, étaient des céréales qui étaient consommées traditionnellement depuis des siècles. Alors, les projets d'extension de la culture du riz, du blé et du maïs ont fait fortement reculer ces consommations de mil, de fonio et de sorgho. Or, on sait qu'il n'est pas bon pour la santé d'avoir une consommation monotone de toutes sortes d'aliments. Donc, particulièrement des céréales. Donc, il est très important de diversifier. Donc, je conseille donc de consommer plus de mil, de sorgho et de fonio, ainsi de renforcer cette diversification et de consommer les différents types de céréales qui peuvent avoir donc cette diversification un impact positif pour la santé. Mais attention, il faut bien rappeler que la consommation de mil et de sorgho ou de fonio, comme des autres céréales, ne doit pas dépasser 50% de l'apport calorique, c'est-à-dire ne pas excéder 300 grammes par jour. Il faut aussi bien rappeler que la consommation de céréales est intéressante si on prend en compte la sauce et la composition de la sauce qui va les accompagner. Donc là aussi, il faut faire attention que les sauces soient pas trop sucrées, pas trop salées, pas trop grasses et avec le maximum de légumes possible. Et enfin, le renforcement de la consommation de céréales traditionnelles, il ne faut pas oublier que ça aura un impact aussi sur le climat, puisque les céréales vont être plus adaptées au climat, que souvent elles auront besoin du coup de moins d'intrants chimiques et qu'on va aussi protéger le consommateur et la santé en mangeant moins d'intrants chimiques et moins de pesticides, perturbateurs endocriniens et d'autres molécules qui peuvent être nocives pour la santé.
Nutrition et santé avec vous, Stéphane Besançon. Merci. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Cétou Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu à la réalisation et Laurie Plisson pour les auditeurs. Demain, nous parlerons du cancer du sein avec témoignages de femmes qui ont été touchées par la maladie. Elles vont nous raconter le diagnostic, le traitement et la reconstruction. On se retrouve demain à 9h10 en temps universel. Et d'ici là, bonne journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Sunway Assurance, qui en cas de décès, met à l'abri vos proches de tout besoin financier. Sunway Assurance, notre métier, l'assurance.